France Bleu Paris, découverte. Laurent Petit-Guillaume.
France Bleu Paris découverte comme tous les jours de la semaine pour faire découvrir un petit peu tout ce qui se passe dans notre région en spectacle. Et puis pas que les spectacles bien sûr, parce que tous les mois nous recevons un journaliste et l'équipe du bondiblog.fr pour la rubrique Le Bâtisseur, un bâtisseur. Alors aujourd'hui, eh bien nous allons vous parler d'une association et d'un infirmier libéral de 36 ans originaire de Melun. Il est président de l'ONG Banlieue Santé qui vise à réduire les inégalités d'accès aux soins. Il préside également MedGlod, j'espère que je le dis bien, une plateforme de télémédecine. Et si tout ça évidemment ne vous dit rien du tout, ben on est là pour tout vous expliquer. Il s'appelle Abdelali El-Badawi et il sera interviewé aujourd'hui. Il est à mes côtés, il est déjà venu faire cette émission par Miguel Schema qui travaille pour le bondiblog.fr. Bonjour Miguel.
Bonjour, bonjour à tous.
J'ai fait la présentation de notre bâtisseur du jour. On va bien évidemment en savoir beaucoup plus. Abdelali El-Badawi, bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Alors, Miguel, c'est à vous de jouer.
Bonjour. Le constat qui vous a poussé à faire Banlieue Santé, c'est qu'on n'a pas accès aux soins selon où on habite. Et comment on peut l'expliquer aujourd'hui en 2019, selon vous ?
Alors effectivement, on est parti d'un constat simple, c'est qu'il y avait énormément d'offres aujourd'hui en France pour se soigner, mais l'information n'arrivait pas chez la personne. Donc on s'est rendu compte, nous, par exemple, qui sommes issus des quartiers, qui sommes professionnels de santé, travailleurs sociaux, que l'information devait arriver. Et ça, c'est tout simplement parce que il y a la barrière de la langue, parce que les personnes ne sont pas informées au bon moment, parce que les personnes s'isolent. Et à un moment donné, ces personnes-là ne vont pas aller directement chez le bon professionnel de santé, ou en tout cas aller directement vers l'hôpital dès qu'ils vont aller mal.
Ce qui manquait, c'était juste en fait de connaître les lieux pour telle ou telle pathologie, c'était ça les gens n'osaient pas, ou alors parce qu'effectivement il n'y avait pas assez d'informations qui voyageaient un petit peu dans tous les endroits.
Alors c'est un peu tout ça en fait qui rassemble, c'est-à-dire que soit ils ne savent pas où aller, soit il y a un énorme parterre d'informations, ce qui fait que quand il y a beaucoup d'informations, on ne sait pas où aller, finalement ça se mélange. Et nous on s'est dit, qui sommes dans ces quartiers-là, qui y vivons, on va pouvoir essayer de faire en sorte de faire un premier, constat de ce qui existe et de pouvoir leur apporter, en tout cas, des solutions adaptées selon les besoins des patients.
D'accord. Vous êtes infirmier.
Ouais.
C'est vous qui avez créé cette association.
Tout à fait.
Il y a combien de temps, pardon ?
En juin 2018, mais ça fait 10-15 ans qu'on est déjà sur le terrain associatif, social et médical. Et en fait, à un moment donné, on a fait ça pendant 10 ans sans association. Mmh. Et on s'est rendu compte qu'en créant une association, on pouvait fédérer aussi de nouveaux membres, de nouveaux adhérents et de nouvelles perspectives, puisque au début, c'était une perspective territoriale et aujourd'hui, c'est une perspective nationale.
D'accord. Très bien. Et cette association est née à Melun.
Alors, je suis effectivement melunais, mais aujourd'hui, elle est à Bobigny dans 93.
Elle est à Bobigny.
Tout à fait. Elle est à Bobigny dans 93. Parce que, effectivement, on est parti du constat que le 93, c'est un endroit où, effectivement, il y avait beaucoup de besoins, en termes de prise en charge. Et aussi parce que, on a fédéré des personnes de partout, et du 93, comme de Marseille, comme de Toulouse. Et voilà.
Très bien. Miguel,
vous avez parlé de l'information, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait que la banlieue, c'est un désert médical et qu'il n'y a pas forcément les professionnels de santé ?
Alors oui, effectivement, c'est un désert médical. Il faut savoir qu'un tiers de la population aujourd'hui en Île-de-France n'a pas accès aux soins, en fait. C'est énorme. Et quand je dis un tiers, c'est un tiers de la population issue des quartiers. Pourquoi ? Parce que ces personnes-là, vivant dans des quartiers, ne savent pas où aller, vers qui s'orienter. Alors oui, effectivement, c'est un désert médical, mais il ne faut pas oublier que aussi les milieux ruraux sont un problème de désert. Enfin, c'est un désert médical aujourd'hui en France. Maintenant, là où il y a le plus de besoins, c'est la banlieue, et en fait, finalement, c'est là où il y a le moins de moyens.
Quand vous dites un désert médical, c'est qu'on manque vraiment de professionnels de santé installés sur place, dans les rues, dans les quartiers ?
Oui.
J'avais l'impression quand même qu'on n'était pas dans une région où il y avait tant de manque que
tout,
ça.
Tout à fait, effectivement, il y a un manque de plus en plus de professionnels de santé. Les médecins ne peuvent plus forcément répondre, aux demandes de nouveaux patients. Mm-hmm. Il y a une population qui grandit. Ouais. Les pathologies se déploient et se développent, puisque aujourd'hui, un patient, quand il est diabétique, il peut avoir une hypertension, il peut aussi avoir une autre maladie. Et donc, à force d'avoir cette multiplicité des maladies, ça, encombre les cabinets. Finalement, on encombre aussi les urgences, et à un moment donné, plus personne ne peut forcément y répondre.
Miguel ?
Et il n'y a pas aussi la question des coûts ? Est-ce que les coûts de santé ont augmenté au cours des années ? ou le remboursement ?
Tout à fait, effectivement, il y a ce coût qui augmente, mais aussi parce que il faut savoir une chose, c'est qu'il y a des coûts qui ne sont pas forcément pris en charge par la Sécurité sociale. Si on doit donner un exemple, tout simplement, quand vous allez chez le dentiste, effectivement, vous allez avoir une base Sécurité sociale et une base mutuelle qui est prise en charge, et il va y avoir un dépassement d'honoraires qui n'est pas forcément pris en charge, mais dont le patient n'a pas forcément les moyens.
Bien sûr.
Alors, il ne faut pas taper sur les dentistes, puisqu'ils sont obligés de travailler. Une couronne, ça coûte très cher. Il faut juste essayer de trouver un équilibre dans tout ça.
Alors, quelle est vraiment sur le terrain l'action de Banlieue Santé? Et puis, quel est le parcours de son président? Il est à nos côtés aujourd'hui. On voit ça dans un instant.
France Bleu Paris.
Canary Bay, un des succès d'Indochine, bien sûr, sur France Bleu Paris.
France Bleu Paris, découverte.
Le Bondy Blog, tous les mois, vient nous rendre visite et à l'occasion de cette nouvelle immersion sur France Bleu Paris, nous sommes avec Miguel Schéma, qui est journaliste à Bondyblog.fr, je vais y arriver, pourtant pas difficile. Et aujourd'hui, eh bien, on vous fait découvrir une association qui s'appelle Banlieue Santé, avec notamment son président Abdelali El Badaoui. Et je cède la parole à Miguel. Miguel Schéma.
Vous avez connu le monde de la santé très tôt. Est-ce que vous pouvez nous raconter ?
Oui, effectivement, je vais essayer de faire court. En fait, le monde de la santé, il est venu tout naturellement chez moi, puisque à l'âge de 6-7 ans, j'ai eu un accident qui m'a brûlé à 70% de la surface de mon corps. Et en fait, pendant 2 ans, j'ai été hospitalisé. J'ai connu les pansements, la morphine, l'équipe médicale, la chambre stérile. Et très vite, j'ai compris que finalement, ce métier était fait pour moi. Mais avant même ça, j'ai compris qu'il y avait des inégalités de santé, des inégalités sociales. Mes parents ne parlant pas le français, c'était compliqué de se faire comprendre. Donc, il y avait une vraie problématique très tôt.
D'où le métier d'infirmier que vous
d'où
faites aujourd'hui.
D'où le métier aujourd'hui d'infirmier. Ouais,
d'accord, vous avez fait vos études d'infirmier en région parisienne.
En région parisienne. Alors, j'ai un parcours assez atypique pour faire rapide. J'ai travaillé pendant 7 ans dans le ménage.
Ouais. Et
en fait, un jour, j'ai un cadre de santé qui m'a dit viens, il faut absolument que tu deviennes infirmier. Et c'est vrai que la petite histoire, c'est que je suis rentré dans une chambre, je faisais le balai.
Je passais le balai
dans une chambre d'un patient et j'ai une petite dame de 85 ans et je lui ai souri. Et elle m'a dit, ça faisait longtemps que j'avais pas vu quelqu'un sourire. Et là, j'ai été vraiment touché en me disant, finalement, si c'est ça le soin, c'est-à-dire sourire, prendre le temps pour les personnes, et ben finalement, j'ai pas besoin de faire un autre traitement que d'abord prendre le temps d'écouter, de regarder les personnes, de leur faire un sourire.
Et dorénavant, vous faites des sourires lorsque vous travaillez dans le... Vous êtes libéral
ouais,
ou dans...
je suis libéral,
d'accord,
tout à fait.
Donc vous savez très bien comment ça se passe quand on va d'un quartier à un autre et chez les gens. Et c'est là que vous avez pu constater effectivement le manque d'information et le manque d'accès à nos différents services de santé, notamment dans cette région, dans notre région.
Exactement. Et finalement, c'est une vraie immersion en tant qu'infirmier libéral, puisqu'on rentre dans le quotidien des patients. On connaît la petite mamie, ses petits-enfants, ses enfants. On connaît son histoire. Et à travers ça, en fait, on fait en sorte d'accompagner les personnes au mieux. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que pour prendre en charge quelqu'un, c'est pas de lui dire vous avez un cancer ou de lui dire vous avez telle maladie. C'est d'abord de savoir son histoire pour essayer de l'accompagner au mieux et trouver les mots qu'il faut. Parce que si on a les mots justes, on va forcément mieux accompagner. Que ce soit du petit enfant qui est en fin de vie, parce que vous savez aussi, il y a des patients, des parents dont les enfants veulent finir leur jour à la maison parce qu'ils ont un cancer, une leucémie, eh ben, il faut savoir accompagner de cet enfant-là, avec les parents, à la personne âgée qui est en fin de vie. Et ça, c'est vraiment essentiel que d'avoir cette vraie réflexion humaine et sociale.
Et l'infirmier a peut-être plus de temps que le spécialiste ou que le médecin généraliste pour vraiment être auprès des gens qui se retrouvent dans ce genre de situation.
Alors, effectivement, il a forcément un peu plus de temps, mais malgré tout, moi, j'ai une frustration, c'est que quand je pars de chez un patient, que je sais que j'ai beaucoup de travail dans la journée et que je prends pas forcément assez le temps, ben j'ai la frustration de pas avoir pris le temps. J'ai pas la frustration de me dire que j'ai fait le pansement, j'ai fait le soin. J'ai la frustration vraiment de pas avoir pris le temps.
Et cette frustration, est-ce qu'elle vient du fait que quand vous étiez à l'hôpital, dans ce long séjour, on n'a pas pris le temps pour vous ?
Alors effectivement, alors à la différence, moi j'ai été enfant, donc quand on est un enfant, on fait en sorte de prendre soin de lui. Ce qu'il y a, c'est que je me rends compte aujourd'hui, moi qui ai travaillé dans différents services, dans différents hôpitaux, la pédiatrie, milieu, la cardiologie, en transplantation rénale, en cancérologie, je me rends compte que le professionnel de santé aujourd'hui prend le moins le temps parce que finalement il a une charge de travail telle que finalement il peut plus prendre le temps de ce lien. Et je pense que c'est essentiel de se dire que le professionnel de santé, avant d'être professionnel de santé, il a un lien social. Il a un lien avec le patient.
C'est une des revendications effectivement du personnel hospitalier et des infirmiers en général, on le comprend bien et on le sait bien,
lorsqu'on
a affaire à eux, évidemment on les soutient. Donc un jour vous décidez de créer cette association qui, je le rappelle, s'appelle Banlieue Santé. J'imagine que vous avez déjà créé votre site internet, Facebook et compagnie.
Tout à fait, on est sur tous les réseaux sociaux. Ouais.
Exactement, alors Banlieue Santé, concrètement, à quoi ça sert sur le terrain, qui peut accéder, qui peut avoir droit à ces services? Eh bien, on va voir ça dans quelques instants. Nous sommes dans France Bleu Paris, découverte avec l'équipe du Bondy Blog aujourd'hui.
France Bleu Paris. France Bleu.
Paris.
crois que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendrá, que vendrá. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. ¿Dónde acabará? Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin de chaque seconde. Les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendrá, que vendrá. Sin pensar, sin pensar, sans penser à demain. Que vendrá, que vendrá. Escribo mi camino. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar.
Elle sera au mois de mars à l'Accor Hôtel Arena et c'est avec France Bleu. C'était Zaz, Zaz que vendrá sur France Bleu Paris. Dans un instant, accès privé, on retrouve Muriel Giordan. Et tout de suite, on découvrira ce qu'est cette association Banlieue Santé. À tout de suite.
12h-13h, France Bleu Découverte. Vous ne verrez plus Paris comme avant. France Bleu.
Vendredi 8 février, France Bleu est en direct des Victoires de la Musique dès 19h. Une soirée inoubliable au plus près des artistes. Louane, Julien Doré, Boulevard Désert, Vanessa Paradis. Une soirée de tubes avec vos artistes préférés. Les Victoires de la Musique, vendredi 8 février dès 19h sur France Bleu et sur francebleu.fr.
Vous, derrière votre volant ou dans votre cuisine, ça fait combien de temps que vous n'avez pas savouré de belles côtelettes d'agneau bien grillées ou un bon petit tagine d'agneau sucré-salé? Moi, en tout cas, aujourd'hui, avec l'agneau, je vais pas me priver de me régaler.
Si savoureux, si tendre, facile à cuisiner, régalez-vous avec l'agneau.
France Bleu Paris.
Midi 28 sur France Bleu Paris, c'est l'heure d'accès privé, tout de suite avec Muriel Giordan. Et c'est la dernière étape de la découverte des secrets du métro parisien. Alors Muriel a pu visiter la station Axo dans le 20e, qui n'est pas sur votre plan, hein, qui n'a jamais été d'ailleurs ouverte. Elle a été construite en 1921, elle était destinée à relier les lignes 3 bis et 7 bis, et elle ne fut jamais mise en service. Aujourd'hui baptisée station fantôme, elle sert de voie de garage. Alors explication, développement, Muriel Giordan.
Alors là, vous avez entendu, il y a eu une annonce. On part à la station Axo. Cette annonce-là, vous ne risquez pas de l'entendre ailleurs. Hein. Ah, ça y est, on est arrivé.
L'essence s'effectue sur votre gauche. Je répète, nous arrivons à la station Axo, la descente s'effectue sur votre gauche. Merci.
Oh là là, incroyable, il y a des tags partout.
Ah bah oui, parce que c'est pas si secret que ça finalement. Voilà.
Ah oui, c'est très prisé.
Les voies du Seigneur sont impénétrables, mais pas tant que ça.
Donc là, on est dans cette fameuse station.
Voilà, on est dans cette fameuse station AXO, donc qui n'a pas d'émergence. On voit juste une réservation sur la partie extrême du quai en prévision de la sortie, mais donc il n'y a pas de faïence, il n'y a rien du tout. C'est une station complètement épurée avec simplement un quai et rien et aucun autre équipement. Voilà, on voit juste peut-être une ancienne armoire de signalisation. Hein, donc, mais
c'est
vraiment,
quoi, c'est l'année 20, c'est l'année 30, non?
1921.
Ça m'étonne pas, ouais.
Et mis en service de 21 à 39 quand même pendant 18 ans.
Il y a une navette pendant 18 ans.
Ouais. Ensuite, la guerre l'a arrêté. Et de 51 ou 52 à 56 pendant 4 ans avec la navette nœud qui, si je me souviens bien, n'assurait pas un service permanent, quoi. Elle le faisait quand elle était en essai, bah, il n'y avait pas de navette. C'était expérimental. Et quand... La RATP voulait faire des essais techniques sur la navette, ben, il n'y avait pas de navette. Elle roulait. La ligne était fermée.
Tout le réseau est truffé d'amorces de projets qui n'ont peut-être pas été réalisés. Voilà. Donc, on peut en voir d'autres. Il y a encore Porte Molitor, justement, mais il y a également toutes ces voies de raccord qui ont été parfois utilisées en tant que navette. Je pense au raccord entre la ligne 5 et la ligne 1 à Gare de Lyon, sur laquelle il y a eu une exploitation sommaire au démarrage du métro et ensuite qui a été abandonnée, puisque, comme disait Yo, il y a eu la ville de Paris qui souhaitait un réseau très maillé et la CMP qui voulait vraiment une exploitation en navette, c'est-à-dire un train pour une ligne et pas comme ce qu'on peut voir au RER ou sur les lignes SNCF, avec des quais qui pourraient desservir plusieurs lignes. Comme on voit à Bruxelles sur le tramway ou sur un seul quai, quand on arrive à Bruxelles midi, il y a 10 rames qui passent pour plein de lignes. Voilà.
Alors c'est vraiment une station incroyable à voir. Elle porte bien son nom, station fantôme, parce qu'on a vraiment l'impression déjà d'être hors du temps. Il n'y a personne et les murs sont remplis d'inscriptions, de tags. Hein. On sent qu'il y a des taggeurs qui ont investi les lieux très certainement la nuit. Il n'y a pas du tout l'allure traditionnelle des stations que vous connaissez.
La voûte, elle va être en béton, ou en tout cas les voûtes du métro, c'est des structures en briques. D'ailleurs on en voit peut-être une partie ici. Donc la voûte, on a toute cette voûte à nu sans aucune faïence, et ensuite ce quai qui a été recouvert d'asphalte, et c'est de l'asphalte historique, hein. Donc au moment de la construction et de la mise en place du quai, il a été asphalté comme tous les quais du métro, et puis aujourd'hui il n'a pas besoin d'être entretenu parce qu'il n'est pas fréquenté, il n'y a que quelques conducteurs par jour qui foulent le sol ici.
C'est génial tout ça. Ça sera l'une des visites exceptionnelles, sachez-le, de Paris Face Cachée. C'est ce week-end, tout est sur Internet et on réécoute bien sûr cette chronique sur notre site francebleuparis.fr.
France Bleu Paris, découverte. Laurent Petit-Guillaume.
En compagnie, comme chaque mois sur France Bleu Paris, de l'équipe du Bondi Blog. Aujourd'hui, l'interview est menée par Miguel Schéma à mes côtés, du bondiblog.fr. Et en face de nous, eh bien, il y a l'invité, ce qu'on appelle un bâtisseur. Il s'appelle Abdelali El-Badawi. Il est infirmier libéral. Il a créé, avec son équipe bien sûr, car il n'est pas tout seul, une ONG, une association qui s'appelle Banlieue Santé, créée en juin 2018. Et qui vise à réduire les inégalités d'accès aux soins. Tout cela n'est pas tout à fait concret. On va rentrer sur le vif du sujet et savoir exactement ce que fait cette association. Miguel Schéma.
C'est la question. Concrètement, avec Banlieue Santé, comment vous tentez en fait de permettre un meilleur accès aux soins, oui, aux populations défavorisées?
Effectivement. Alors, on part du constat qu'il faut d'abord créer du lien social, donc connaître la population. Donc, notre objectif, c'est vraiment de... aujourd'hui, nous sommes intégrés dans tous les quartiers aujourd'hui où il y a un vrai besoin. Et notre première initiative, c'est de pouvoir mobiliser, là, cette année, on est en plein dedans d'ailleurs, un camion de santé mobile qui va pouvoir permettre l'accès aux soins dentaires, parce qu'on pense que c'est un accès qui est pas forcément que tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir aujourd'hui. Ça coûte très cher. Et donc l'idée, c'est de faire un camion mobile qui va pouvoir donner des soins dentaires. Et puis aussi une partie de prévention dans ce camion, médical, je dirais plutôt de médecine générale.
Alors, quand vous dites « on », moi j'imagine qu'il y a en juin 2018, finalement c'était il n'y a pas si longtemps que ça, vous avez l'idée tout seul ou plus ou moins, vous aviez déjà réfléchi à ça, vous êtes nombreux dans cette petite équipe, est-ce que ce ne sont que des gens qui sont dans le milieu médical qui vous entourent, vous allez faire vos démarches tout seul ou en groupe, vous êtes combien au départ?
Alors effectivement, au début, on était quelques-uns autour de la table à se poser les questions comment on pouvait agir concrètement, au-delà de ce qu'on faisait déjà sur le terrain. Et finalement, quand on a lancé l'idée banlieue santé, tout de suite, beaucoup de gens s'y sont reconnus, que ce soit des patients, que ce soit des professionnels de santé, des travailleurs sociaux. Aujourd'hui, on a aussi des personnes qui travaillent dans la tech, des ingénieurs, qui permettent en fait aujourd'hui de créer des innovations sociales. Pour exemple, au-delà du camion de santé mobile qu'on veut déployer, depuis la semaine dernière, on est incubé à Station F.
C'est-à-dire Station F.
Vous savez pas ce que c'est?
Non, je vais vous le dire.
C'est l'incubateur, le plus gros incubateur du monde, qu'a créé Xavier Niel, qui est
treizième,
en face de la Salpêtrière,
et
qui permet d'incuber, je dirais, des entreprises ou des startups d'innovation sociale aujourd'hui.
Très bien.
Pour nous, on est une startup d'innovation sociale et surtout d'inclusion sociale et médicale.
Donc, avec votre équipe, le premier travail que vous avez réalisé, c'est un petit peu aller sur le terrain, dans des lieux que vous connaissez bien, et d'aller interroger les gens sur le manque d'accès à la médecine, aux soins, voilà, concrètement, et vous avez dû lister tous ces manques.
C'est ça. On a listé les manques, et en même temps, on s'est rendu compte que finalement, grâce à cette initiative qu'on a menée, on avait aujourd'hui des ambassadeurs partout, que ce soit à Toulouse, Marseille, Grenoble. Et notre objectif cette année, c'est vraiment de se déployer sur tous les territoires français où il y a un besoin, grâce à nos ambassadeurs qui sont des professionnels de santé, des travailleurs sociaux, pour innover localement. Parce qu'on pense que les innovations locales vont pouvoir permettre de résoudre des problèmes sur le plan local.
Mmh. Donc comme c'est... j'ai une dernière question à poser, moi je veux être bien concret et tout. Sur le terrain, vous avez récolté des informations, notamment en banlieue parisienne, d'accord. À ce moment-là, vous dites, on a un manque d'accès à la médecine dans plein d'endroits. Alors comment vous développez justement cet accès à la médecine? Parce qu'il faut être concret, là, vous n'allez pas faire venir des médecins là où il n'y en a pas.
Alors effectivement, de manière concrète, par exemple, on part du principe que les citoyens... on ne va pas leur apprendre demain comment ils vont faire leur cuisine pour aller mieux. Mmh. L'idée, c'est vraiment de se dire, les citoyens doivent se saisir de cette question, doivent agir concrètement avec nous, doivent dire, nous, on a un problème, comment on fait pour le résoudre, de quelle manière. Et nous, c'est notre travail aussi de dire avec une équipe médicale et sociale, de quelle manière on peut apporter des solutions concrètes, simples, pas forcément tout de suite médicales, mais d'abord sociales. Et c'est comme ça qu'on met notre travail.
Et une de ces solutions concrètes, c'est le camion dont vous avez parlé.
Tout à fait.
Et est-ce que vous avez une idée du parcours de ce camion, dans quel lieu il sera implanté? Et aussi la question de, est-ce qu'il y aura du dépistage aussi dans ce camion-là, ou la question du dépistage ne sera pas présente?
Si. Alors effectivement, on a pour vocation de s'installer durablement dans les territoires qui sont les banlieues, mais aussi les milieux ruraux, parce qu'on pense que vraiment un camion mobile qui va dans les ruralités, c'est important aussi de pouvoir aussi donner l'accès à ces personnes-là. Mais si on doit parler banlieue, effectivement, c'est de pouvoir faire ça dans 93, dans 77, dans ces banlieues parisiennes pour le moment, pour avoir tout de suite un premier retour pour qu'on puisse déployer dans d'autres banlieues françaises. Et forcément, il y aura un accès au-delà du soin, il y aura forcément un accès du dépistage. Parce que le premier soin, c'est au-delà du lien social, c'est le dépistage pour leur apprendre aujourd'hui à mieux se brosser les dents, à faire attention à leur hygiène bucco-dentaire, etc.
Il existe le camion?
Alors effectivement, il est en construction et on va le lancer, on espère, cette année.
Ça sera comme un cabinet médical roulant, quoi.
C'est ça, ça sera un cabinet médical roulant avec une équipe dédiée qui va pouvoir sillonner les quartiers, va pouvoir proposer ce service-là.
Et cet accès-là sera au même titre qu'une maison de santé qui ne bouge pas, quoi. Les frais seront les mêmes,
demandés, etc.
Donc vous allez peut-être recruter également du personnel médical.
C'est ça. Et donc justement, dans nos bénévoles, on a des professionnels de santé, on a des dentistes, on a des médecins, on a des sages-femmes, des kinés, des infirmiers qui vont se porter aujourd'hui garant de pouvoir porter ce projet-là.
D'accord, mais ils ne fourniront pas les soins gratuitement.
Alors effectivement, nous, notre objectif, c'est vraiment de pouvoir faire en sorte que le projet devienne de plus en plus autonome. Parce qu'on sait très bien qu'un projet qui n'est pas autonome, c'est un projet qui va voué à mourir. Alors que nous, notre objectif, c'est vraiment de le rendre plutôt pérenne. Et nous, c'est notre objectif, notre fer de lance, c'est de rendre pérenne les projets.
Qui vous êtes financièrement?
Alors, jusqu'à maintenant, ça a été, je dirais, nous, de nos propres deniers. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de soutien, des fondations qui vont effectivement nous accompagner. On a effectivement réussi à fédérer aussi un écosystème. La marraine du projet, qui est Banlieue Santé, c'est la vice-présidente du MEDEF. On a réussi à fédérer des professeurs en médecine, des grandes entreprises dans la santé qui veulent aussi continuer à développer ce projet avec nous parce qu'ils ont bien compris qu'il y a un vrai besoin dans les quartiers et que finalement, ils ne le feront que avec les personnes qui sont actives sur le terrain.
On a un ministère de la Santé, ils sont au courant ?
Alors, le ministère de la Santé ne sont pas au courant, mais le ministre de la Cohésion des Territoires, Julien de Normandie, que je salue d'ailleurs, qui y croit et qui a envie que ça se fasse. Voilà.
Très bien. Bon, ben voilà, on a compris. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire rouler ce camion, ce bus de Banlieue Santé. La suite, parce qu'on a encore plein de choses à apprendre de Banlieue Santé et de l'équipe qui vous entoure, Abdelali, c'est juste après ça.
France Bleu Paris.
France Bleu. Yeah. J'ai cherché un sens à mon existence. J'y ai laissé mon innocence. J'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance. J'ai payé le prix du silence. Je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi. Donné un sens à mes pourquoi. Tu as tué la peur qui dans mes
J'ai cherché Amir sur France Bleu Paris.
France Bleu.
Chaque région a ses spécialités, tout en leur France Bleu. Une heure en France.
Nous sommes avec une éleveuse de chiens qui les forme pour venir en aide aux personnes sourdes. Elle est basée dans les Hautes-Pyrénées, nous la rencontrons. Et vous saurez tout sur l'avocat, ce fruit bon pour la santé. Les recettes, d'où il vient, son histoire, on fait le point.
Frédéric Le Ternier, Denis Farou, Une heure en France sur France Bleu, dès 13h.
France Bleu aime le cinéma. Il y a 5 ans, vous aviez fait un triomphe à de petites créatures minuscules. Dans Minuscule 2, une petite coccinelle est expédiée contre son gré aux Caraïbes. La fourmi et l'araignée reprennent du service pour lui venir en aide.
Nouveau monde, nouvelle rencontre, nouveau danger.
Minuscule 2, actuellement au cinéma. La bande-annonce et toutes les infos sur francebleu.fr.
France Bleu Paris.
France Bleu Paris, découverte.
Il a créé l'association Banlieue Santé il y a quelques mois qui œuvre dans notre banlieue, dans nos banlieues pour un petit peu réduire les inégalités d'accès aux soins. Il est notre invité aujourd'hui et c'est Miguel Schéma du bondiblog.fr qui l'interviewe tout de suite parce qu'il ne s'est pas arrêté à cela. Abdel Ali El Badawi, n'est-ce pas ?
Exactement. Vous nous avez parlé des inégalités face aux soins, du remboursement, etc. etc. Est-ce qu'aujourd'hui la solution c'est la télémédecine ?
Alors, effectivement, la télémédecine, c'est une solution parmi tant d'autres. Nous pensons que, effectivement, la télémédecine que nous menons, par exemple, pour notre projet, c'est d'inclusion médicale et sociale. C'est vraiment d'apporter la médecine à ceux qui ne savent pas aujourd'hui avoir l'information ou en tout cas ne comprennent pas le message. C'est pourquoi on a décidé, effectivement, avec une équipe d'ingénieurs, de travailler sur cette solution, de professionnels de santé, mais aussi de patients pour vraiment faire en sorte d'avoir, je dirais, les vraies problématiques qui les concernent. Pouvoir faire en sorte que cette plateforme puisse leur donner accès à quelqu'un qui leur parle de la manière dont ils eux-mêmes parlent finalement, c'est-à-dire avec la langue, avec éventuellement prendre en charge l'aspect culturel pour mieux accompagner. Pour faire simple, aujourd'hui, quand vous parlez à une femme d'Afrique, de la gynécologie, vous ne parlez pas de la même manière avec une femme qui est occidentale parce que il y a un attrait culturel, il y a quelque chose qui est de l'ordre, par exemple, de la personne en elle-même, de sa culture, de comment elle a été éduquée. Et je pense que c'est important de prendre en considération aussi l'aspect culturel pour mieux accompagner les personnes.
Donc, quand vous parlez de plateforme, ce serait des sites internet ou un site internet où il suffirait de se connecter pour avoir accès à une personne, à un professionnel de santé telle ou telle catégorie. Et toujours concrètement, en ayant accès, financièrement parlant, comme si on y allait, quoi.
C'est exactement ça.
Donc ça, c'est une mesure, c'est une solution qui est en train de naître ou qui existe déjà?
Alors, c'est une solution qui est en construction, justement, à Station F, là où on est incubé depuis la semaine dernière, puisqu'on a été retenu dans le programme Fighters, qui est un programme pour les personnes issues de la diversité. Et on a été sélectionné parmi 300 dossiers, on est 15 à être sélectionnés, donc notre projet a été mis en avant pour pouvoir être porté cette année dans un modèle plutôt d'entrepreneuriat social.
Et ça pourrait exister quand ?
Cette année.
Ah, cette année, en 2019, on pourrait déjà voir ça.
Très
bien, on en reparlera.
Mais dans une époque où on se plaint, où les patients surtout se plaignent d'une médecine qui déshumanise, qui met de la distance entre le patient et le soignant, est-ce que la télémédecine, ça ne met pas plus de distance? Ça ne déshumanise pas un peu plus
la
médecine?
La télémédecine, c'est un premier rempart. Ça ne veut pas dire que forcément, on va se décharger de la prise en charge, je dirais, d'avoir quelqu'un qui nous prend en charge de manière plutôt physique. C'est un premier rempart pour désengorger les urgences, désengorger les cabinets. Et après, par la suite, ça n'empêche pas d'aller voir un médecin. Et finalement, je pense que la télémédecine ne peut pas arranger toutes les problématiques aujourd'hui de santé.
On a le CEMS, excusez-moi, qui a prouvé que...
C'est le
Centre d'expertise de mort subite.
Merci Miguel.
Qui a montré que quand on vient de quartiers plus populaires, on a moins de chances de survivre d'un arrêt cardiaque. Et aujourd'hui, selon vous, c'est quoi la solution qu'on peut apporter pour que quand on est de Bobigny ou de Neuilly et qu'on a un arrêt cardiaque, on ait les mêmes chances de survivre?
Effectivement, et c'est une des thématiques qu'on est en train de travailler, nous, avec nos équipes. C'est de pouvoir faire en sorte de former dans les quartiers aujourd'hui des jeunes ou des moins jeunes à se former aux premiers gestes de secours afin de pouvoir faire les massages cardiaques à des personnes qui sont éloignées, d'un hôpital ou éloignées d'un service d'urgence. Et en attendant que le SAMU arrive, qu'il y ait des équipes ou en tout cas des citoyens actifs. Parce qu'en fait, je pense que c'est important qu'aujourd'hui les gens soient actifs et qu'ils soient autonomes. Et donc, il faut les former à cela. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'est bien rendu compte que la problématique, c'est aussi de pouvoir donner l'accès à la formation. Et c'est pour ça que nous aussi, on veut amener la formation auprès de cette population.
La formation, c'est-à-dire motiver, par exemple, des jeunes qui
cherchent des jeunes issus
une carrière jeunes. Professionnelle, leur expliquer ce qui est possible.
Il y a ce sujet-là, motiver des jeunes à pouvoir apprendre les premiers gestes de secours, mais qui permettent peut-être demain de susciter des vocations. Nous, aujourd'hui, on accompagne sous forme de tutorat des jeunes issus des banlieues, que ce soit des jeunes en médecine, que ce soit des infirmiers, des futurs infirmiers, des futurs sages-femmes, des futurs kinés à devenir, je dirais, les professionnels de santé de demain. Et aussi, on suscite des vocations avant même d'être à l'école d'infirmier, de médecine, puisque, par exemple, on va dans les écoles, on parle de nos parcours, on parle que ça existe, que ça peut se faire et qu'il suffit de vouloir.
Alors, vous le disiez, vous aviez un site internet, sur les réseaux sociaux, vous êtes très présent, c'est banlieusanté.fr ou .com,
alors,
j'imagine.
C'est banlieue au pluriel, -santé.org.
.org, voilà. Très bien.
Et on est sur tous les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Instagram, LinkedIn,
Snap,
Twitter.
Snap, avec son peu de monde.
Voilà, exactement.
Peut-être pas Snap, mais bon, c'est pas grave. Vous avez besoin de quoi?
Alors aujourd'hui, on a besoin effectivement d'avoir des soutiens financiers puisqu'on va grossir. On est en train de grossir énormément dans les quartiers. On se rend bien compte qu'il nous faut aussi des soutiens financiers, des partenaires publics.
Oui.
Et aussi, je dirais encore des personnes qui vont vouloir vraiment se rendre actifs. Alors n'hésitez pas effectivement à aller sur notre site, à vous inscrire, à nous envoyer un mail sur contact@banlieue-santé.org. pour donner de votre temps, parce que finalement, ce qu'on demande aux gens, c'est pas forcément que de l'argent, c'est aussi donner du temps. C'est pourquoi aujourd'hui, par exemple, pour faire simple, on est en train de travailler, là, pour le mois de février, une campagne pour aller mobiliser les quartiers à donner leur sang, à donner leur moelle osseuse, à donner leurs plaquettes, parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de gens qui meurent de leucémie à cause du fait que les phénotypes qui sont aujourd'hui de plus en plus complexes parce qu'il y a la diversité, la mixité, et il faut mobiliser les quartiers à donner leur sang, à donner leur moelle osseuse, à donner leur plaquette. Et nous, on veut faire une grande campagne où on va mobiliser les quartiers. Donc, je fais un appel aussi à l'établissement français du sang, si vous nous entendez, c'est d'avoir ce partenariat avec vous pour vraiment collaborer sur cette problématique avec aussi l'agence de biomédecine.
Merci. Ben, s'ils n'ont pas entendu, sachez que cette émission, bien sûr, elle est podcastée. Vous la retrouverez sur le bondiblog.fr et sur notre site également, francebleuparis.fr. Merci Miguel Schéma de bondiblog.fr et à la prochaine, puisque vous revenez tous les mois dans cette émission. Et merci beaucoup Abdelali Belbadaoui, et ainsi que toute votre équipe banlieusanté.org.
Et merci à tous et à très bientôt.
À bientôt.
France Bleu Paris.